La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ? Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message. Alors moi, j'aimerais savoir si l'astéroïde Apophis va nous percuter en 2037.
Au CNES, celui qui sait, c'est Jean-Yves Prado, représentant du CNES au Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace de l'ONU. Allô Jean-Yves ?
Oui, bonjour.
Est-ce que tu peux me dire qui est Apophis ?
Apophis est un astéroïde de taille relativement modeste, un diamètre environ 250 à 300 mètres. Il a été découvert en 2004. Et comme son orbite fait qu'il s'éloigne de la Terre régulièrement et il met plusieurs années avant de revenir dans son voisinage, il a été perdu de vue depuis début 2005. Donc on n'en sait pas plus aujourd'hui sur lui. Il va falloir attendre 2 ans, 3 ans pour que les conditions d'observation s'améliorent, qu'on puisse mesurer plus précisément sa dimension et sans doute avoir des informations ou des hypothèses sur sa nature, sur sa constitution, au moins de sa surface.
En fait, il fait partie d'une famille d'objets qu'on appelle les géocroiseurs, c'est bien ça ?
On définit en général le mot géocroiseur, donc géo, la Terre, et puis croiseur au sens où les objets croisent l'orbite de la Terre sur un critère de distance minimale entre leur orbite et l'orbite de la Terre, de l'ordre de 40-45 millions de kilomètres. Donc c'est effectivement le cas d'Apophis, mais il y a des milliers d'objets qui répondent à cette dénomination.
Quel est le danger pour la Terre de ce type d'objet ?
Pour qu'il présente un danger pour la Terre, il ne suffit pas qu'il se rapproche à des distances de quelques milliers de kilomètres, il faut aussi qu'il ait une taille qui effectivement représente un risque fort s'il y a un impact. Il faut considérer que tous les objets de plus de 1 km de diamètre, qui, s'ils venaient à rencontrer la Terre, pourraient produire des phénomènes dévastateurs à l'échelle mondiale. Hein. C'est un des objets de cette classe-là qu'on attribue la disparition des dinosaures. Aucun objet de cette dimension-là n'est identifié comme potentiellement dangereux. Et comme ce sont les plus gros, ce sont les plus faciles à découvrir. Donc on peut quasiment garantir qu'il n'y a aucun risque dans les millions d'années à venir de catastrophe globale induite par un objet géocroiseur. Si on descend en taille, quelques centaines de mètres, là la population de ces objets est beaucoup plus nombreuse. Il y en a près d'un millier qui peuvent se rapprocher dans les siècles à venir, quelques millions de kilomètres. Si danger il y a, c'est de cette classe de géocroiseurs. En dessous de 100 mètres, les risques sont vraiment très locaux. Gênant, mais pas plus qu'un tremblement de terre ou une éruption volcanique, à laquelle malheureusement on est habitué.
Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la probabilité qu'Apophis heurte la Terre ?
C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Il est sur une trajectoire qui est bien déterminée, et on ne sait pas si elle croise exactement la trajectoire de la Terre, et à supposer qu'elle se croise, on ne sait pas si la Terre et Apophis passeront à ce croisement exactement en même temps. On a une incertitude quand même assez forte sur l'orbite d'Apophis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en 2029, Apophis va passer très près de la Terre. La trajectoire d'Apophis va être modifiée par l'attraction de la Terre. Il peut y avoir des conditions qui font que cette nouvelle orbite se traduise quelques dizaines ou quelques centaines d'années après par un impact.
Quelles pourraient être les stratégies pour éviter une collision si dans les années à venir cette hypothèse se confirmait ?
Alors là, il y a deux grandes catégories de techniques de déflexion. La première qui est assez brutale, impulsive. On le percute par une bombe éventuellement nucléaire. Donc on donne un très fort choc de manière à lui donner une petite déflexion qui modifie sa trajectoire naturelle et donc qui le place de telle manière que finalement il évite la Terre. Mais à ce moment-là, on ouvre la porte à une militarisation de l'espace. On prend le risque que des pays arguent du fait qu'il y a une menace d'astéroïdes pour laisser des bombes nucléaires dans l'espace. Donc c'est quand même assez dangereux de rentrer dans cette voie-là. Une autre, plus longue et beaucoup plus douce, qui serait de modifier certaines de ses caractéristiques pour progressivement et sur des périodes plus ou moins longues, modifier sa trajectoire. L'idée serait de placer à son voisinage un objet assez lourd, donc dans lequel il y aurait une attraction mutuelle entre l'astéroïde et cet objet-là, donc un gros satellite de quelques tonnes, Et progressivement, on tire l'astéroïde, d'une certaine manière, en dehors de sa trajectoire naturelle. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le tracteur gravitationnel. Un autre type qui serait envisagé serait de jouer sur ses caractéristiques thermiques ou optiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière du Soleil, en réchauffant ou simplement par la pression directe exercée par la lumière du Soleil, induit une petite force, qui est très faible. Soit augmenter cette force, soit la diminuer, soit même l'annuler complètement, obtiendrait aussi comme effet de modifier la trajectoire.
Et ces techniques, elles sont disponibles aujourd'hui ?
Ça, c'est encore des techniques qui existent sur le papier. Il y a des réflexions là-dessus. Les techniques sont identifiées, mais il y a encore du travail à faire pour les rendre opérationnelles. La première étape à franchir, c'est de confirmer les extrapolations d'orbite, la géométrie de son passage en 2029, et ça pourra être fait dans les 2 ou 3 ans qui viennent, quand les conditions d'observation seront bonnes.
Merci, Jean-Yves Pradeau.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Divergent. Les experts en propulsion sont unanimes, puisque tous leurs avis sont convergents. Un moteur fusée sans divergent, c'est un peu comme un avion sans ailes, ça ne va pas très loin. Le divergent, que divergent on appelle aussi tuyère, c'est cette protubérance en forme de chapeau pointu qui fait saillie à l'arrière des fusées. Son rôle exact, c'est d'accélérer les gaz produits dans la chambre de combustion. Plus le divergent est long, plus les gaz sont accélérés et meilleure est la performance de la fusée. Seul problème pour faire des divergents géants, la place manque dans les lanceurs. Pour pallier cette difficulté, la prochaine version d'Ariane 5 emportera, pour son 2e étage, un divergent très intelligent. Replié pendant le lancement, il se déploiera une fois dans l'espace, juste avant de fonctionner. De plus, ce divergent, décidément très obligeant, n'aura plus besoin d'emporter une lourde armure pour se protéger des assauts de la chaleur. Il abandonnera l'alliage métallique pour s'adonner aux joies du carbone, incomparablement plus léger. Un divergent qui met tout le monde d'accord, convenons-en, c'est épatant.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Hélios, un satellite pour l'Europe ? Hélios, le dieu au rond visage et à l'abondante chevelure, dont chaque mèche figure un rayon de soleil. Hélios, que la croyance populaire a fini par assimiler à Apollon, le dieu de la musique et de la poésie, le dieu brillant par excellence. Hélios, le dieu auquel fut consacrée l'une des 7 merveilles du monde antique, le colosse de Rhodes. Hélios, enfin, qu'Homère dans son Odyssée dépeint comme celui qui voit et entend toutes choses. Ce n'est donc pas un hasard si ce nom a été choisi pour baptiser les 4 satellites qui, depuis 1995, se sont relayés pour offrir aux militaires de notre pays le regard perçant des dieux, la vue de la Terre depuis l'espace. Le dernier d'entre eux, Hélios IIB, a rejoint ses camarades le 18 décembre dernier. Comme leur dieu patronyme, ils voient de jour comme de nuit des détails de quelques dizaines de centimètres. Ils sont aussi capables d'entendre. Hélios, en mettant ses yeux et ses oreilles au service des armées, veut donner raison à Clément Ader, qui, il y a plus d'un siècle, écrivait « Qui sera maître du ciel sera le maître du monde ». Utilisé par les militaires, l'espace aurait-il perdu son innocence ? Certes, les juristes et les responsables politiques des années 1960 se sont employés à empêcher l'envoi dans l'espace d'armes nucléaires ou de destruction massive. Ils se sont employés à conserver aux activités spatiales un caractère pacifique. Pour autant, ils n'ont pas interdit l'envoi de satellites espions, confiant à l'espace une vraie responsabilité en matière de défense et de sécurité. C'est là une tâche complexe, pour laquelle autrui peut tour à tour être un compatriote, un allié ou un ennemi. Une tâche pour laquelle surveiller et s'informer se mettent au service de la domination, mais aussi de la vigilance, de la prévention ou du soin. Une tâche, enfin, qui exige d'oublier parfois les frontières nationales pour permettre l'émergence d'un savoir-faire, d'un savoir-vivre communautaire international. Car pour réaliser Helios, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Grèce ont réuni leurs moyens techniques et financiers. Pour une Europe en panne de politique de défense commune, ce n'est pas mettre la charrue devant les bœufs, mais œuvrer plutôt en faveur de la construction européenne. L'Odyssée d'Homère raconte encore comment, éloigné de l'Assemblée des dieux, lorsque ceux-ci se partagèrent les pays de la terre, Hélios reçut l'île de Rhodes, apparue ultérieurement. Et si les satellites Hélios étaient à leur tour et à leur mesure, au service d'un pays encore à venir, l'Europe.
Alors, allons-y.
La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui. Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.